Avant d'introduire le débat, je voulais juste resituer quand même un petit peu l'intervention de Dominique dans l'économie de la formation. Donc, on a travaillé hier un petit peu sur les politiques publiques, la manière dont la question du décrochage s'inscrivait dans l'institution et de quelle manière. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a basculé sur autre chose et qui me semble assez fondamental. Alors, on a notre collègue et chef Patrick Picard, que certains d'entre vous connaissent bien, qui a l'habitude de dire, si on veut vraiment avancer sur cette question, il faut arriver à passer de discours et de réflexions sur l'origine des difficultés à des réflexions sur la nature des difficultés scolaires. On a trop souvent, je pense, tendance à penser que les problématiques des enfants qui finissent par décrocher s'originent à l'extérieur de l'école, que ça serait un problème du milieu social, de la famille, etc. Alors que ce qu'on va essayer de montrer avec notamment l'intervention de Dominique Rotter, mais aussi celle de Marcine Lapara, c'est que les difficultés scolaires, la nature des difficultés scolaires se construisent dans les interactions à l'école, en classe, et que si on veut avancer sur ces questions, c'est bien là-dessus qu'il faut faire le focus et réfléchir quelle est la nature de ces difficultés-là. Donc là, autour de la conscience disciplinaire, on a une première entrée. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, des remarques à faire sur ces questions.
Merci. Je suis chargé de l'organisation de la formation des enseignants du premier degré dans une équipe qui s'appelle la CREFOC, la cellule rectorale de la formation continue. Vous avez à un certain moment parlé des parents et ma question pose sur la représentation de ces parents. Est-ce que vous avez observé des tensions entre le découpage ou le vécu de ces disciplines et la représentation que peuvent avoir les parents et y a-t-il éventuellement des contradictions entre les deux? Je pense notamment aux arts visuels, qui est domination et désignation à l'intérieur de l'école, alors que pour beaucoup de parents, ils en sont restés encore au dessin.
Alors, je n'ai pas de résultat, hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas systématiquement croisé, nous n'avons pas posé de questionnaire de la même nature, au fond, on aurait pu le faire aux parents. Mais c'est vrai que ce que j'ai simplement souligné, ce sont des contradictions ou des tensions qui sont apparues lorsque nous avons mené des recherches auprès des parents, mais sans ce point de vue de la conscience disciplinaire. Lorsque nous leur avions demandé, par exemple, quelles étaient les activités qu'ils menaient avec leurs enfants pour qu'ils réussissent mieux à l'école. Et là, effectivement, il y a des tensions entre les activités que les parents, qui sont souvent pleins de bonne volonté, vraiment désireux de faire rentrer l'école à la maison, en quelque sorte, ne sont pas toujours celles que l'enseignant préconise, d'accord, ou reconnaît. Et de même, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une tension parfois dans les intentions. Je dis ça parce que nous avions travaillé dans une école qui est toute proche de mon domicile, qui est une école, on va le dire grossièrement parlant, ça travaille avec des gens qui sont plutôt du quart monde, d'accord. Et donc là, vous aviez une population très particulière que nous avions réussi à aborder par le biais d'ATD quart monde d'ailleurs, et à interroger, et il y avait un discours extrêmement positif par rapport à l'école de ses parents, une envie de faire déjà à la maison des choses, et un manque complet, je veux dire, de cohérence avec ce qui était perçu à l'école. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est comme si c'était deux mondes qui étaient aveugles, je ne sais pas comment le dire. Aveugles l'un à l'autre. Parce que les enseignants aussi disaient « Oh, quand je rencontrerai tel parent, je lui dirai que... » Et le parent entendait, mais ne comprenait pas ce qui était dit. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était un rendez-vous raté. C'est très très long à mettre en place. On a vu dans l'école de Mont-Saint-Barol, c'est vrai, qui sont des militants, hein, des militants, et l'école est basée sur une idéologie, hein, ne nous leurrons pas, hein, quand même, c'est vrai, une idéologie politique, donc c'est pas l'école lambda, on va dire. Là, effectivement, ils ont travaillé sur l'accueil des parents sont reçus tous les samedis, Les parents interviennent dans des ateliers tous les samedis. C'est quelque chose dans ce cas-là, mais ça a mis 2 ou 3 ans pour se construire. Je donne un exemple simplement qui m'a beaucoup frappée sur l'aveuglement réciproque. Hein. C'est par exemple les parents de cette école de Mont-Saint-Barœul que nous avions pas mal interrogé, nous ont dit, mais au début, on nous a dit ils sont en pédagogie freinée. Et ils avaient tous compris que c'était une pédagogie pour freiner. Parce que freiner, qui connaît freiner, hein, franchement. Surtout, enfin, je veux dire, c'est pas non plus des gens qui sont d'origine de France ou de trucs comme ça, donc freiner. Et c'était dit, nos enfants sont tellement mauvais, ils sont tellement déjà freinés, ah bah oui, c'est une pédagogie pour les gens qui sont freinés. Vous voyez, des choses comme ça auxquelles on ne pense pas, parce que je suis, les enseignants ne voulaient pas, hein, que ça se passe comme ça. Mais vous avez des... voilà, il faut travailler là-dessus. Je ne suis pas du tout spécialiste des relations entre enfants et parents, mais je sais que chaque fois qu'on y a travaillé, manifestement, ça s'est mieux passé. C'est tout ce que je suis en mesure vraiment de vous dire. Voilà.
Pour compléter là-dessus, il y a vraiment les travaux de Séverine Cacpo sur ce qui se passe dans les milieux populaires, notamment autour de la question des devoirs à la maison, et qui montre qu'il y a une redidactisation familiale des contenus scolaires. Oui. C'est vraiment les travaux de Séverine Cacpo sont passionnants. Ils donnent à voir vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas.
Oui, bonjour. Cyril de Sosmérité, coordonnateur de l'atelier relais du bassin de Vichy et animateur d'une commission collégiale en difficulté pour le bassin de Vichy. Donc une commission dans laquelle on tente de soutenir, d'accompagner des équipes qui souhaitent mettre en place, particulièrement dans les collèges, des dispositifs, qu'on va dire entre guillemets, innovants, ou en tout cas soucieux de faire évoluer leurs pratiques au bénéfice des élèves. Et dans ce que vous nous présentez au niveau de la conscience disciplinaire, je m'interrogeais en fait sur les levées d'action, les leviers d'action plus bas. Oui. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris de votre intervention, vous nous dites que la conscience disciplinaire peut être freinée dans l'acquisition du sens de la discipline par exemple le fait de réaliser visiblement des activités qui ne sont pas le sens donné à la discipline. Mais vous nous avez parlé aussi de l'impact de la classe et de l'établissement.
Oui.
D'où ma question, d'après vous, le levier d'action, c'est le climat scolaire principal ou c'est du sens et des mots utilisés et des pratiques concrètes mises en place avec les élèves?
Alors, c'est une question compliquée de savoir. Ce qui est, je veux dire, c'est même de différencier les facteurs. D'accord? Parce que il est certain que l'ambiance de l'établissement, il y a énormément d'études qui montrent que dès qu'il y a une équipe soudée, on va dire, qu'il y a un ensemble d'adultes qui tient le même discours cohérent à tous les élèves d'un établissement. Comme je dis, si dans la cour de récréation, il y a un gamin qui fait une bêtise, et si quel que soit l'adulte, il a la même sanction, c'est quelque chose, c'est un facteur, je crois, incontournable presque, du sentiment de sécurité et du sentiment de construction en tant qu'élève dans un climat propice aux apprentissages. De même que construire du sens à ce que l'on est en train de faire me semblait aussi un facteur incontournable. Alors, dire lequel des deux ? Et le plus, celui à faire passer en premier, j'en serais bien incapable. Enfin, je vais vous dire quand même qu'il me semble, je prends des risques, hein, qu'il me semble qu'ils fonctionnent ensemble, là je ne prends pas de risques, mais que le sens donné aux apprentissages est parfois un tout petit peu minoré. C'est-à-dire que autant je vois, surtout dans l'Académie du Nord-Pas-de-Calais, où il y a énormément dans les collèges et dans les lycées de très jeunes enseignants, d'accord, qui viennent de passer, qui sont nommés, ou ils sont nommés dans le Nord-Pas-de-Calais ou à Créteil-Versailles, enfin je ne sais plus où, et qui arrivent et qui forment des équipes. Et des équipes extrêmement solidaires, parce qu'ils ont exactement le même parcours, ils ont le même âge, ils ont la même façon de se retrouver face à des élèves qu'ils ne comprennent pas toujours, d'être démunis. Donc ça forme des équipes pour peu qu'il y ait un principal et un principal adjoint qui soit avec eux, ça forme des équipes vraiment extrêmement cohérentes et au fond ils vivent très bien. D'accord, c'est-à-dire que l'établissement vit très bien. Maintenant, ils se disent effectivement, j'arrive à mettre du bien-être. J'arrive à mettre des élèves qui ont vraiment une vie pas très marrante tous les jours, mais ils aiment bien venir au collège. C'est-à-dire que le problème de l'absentéisme peut parfois se résoudre. Je propose des activités qui sont très intéressantes. Je fais des vidéos, je fais des jeux de rôle, enfin, des tas de choses. Mais au fond, est-ce qu'on travaille, est-ce que dans ce cas-là, et je serais méchante avec eux parce que c'est pas ça que je voudrais dire, hein, c'est parce qu'on est entre nous. Est-ce qu'ils remplissent vraiment la mission première qui est de transmettre des connaissances? Est-ce que l'on peut faire les deux à la fois? C'est-à-dire, est-ce que construire du sens pour les apprentissages disciplinaires, après tout, c'est au collège, hein, on est là aussi pour ça, peut effectivement marcher avec ce bien-être? C'est ce que je disais au départ. Est-ce qu'il est nécessaire de dire « on commence par instaurer la paix sociale, l'absence de violence, etc. » pour ensuite pouvoir travailler? Ou bien est-ce qu'on peut faire les deux à la fois? Est-ce que travailler ne participe pas indirectement à la paix sociale? Voilà.
Oui. Ouais, alors moi, je voulais rajouter aussi quelque chose par rapport à ça, mais
Je partage tout à fait votre questionnement, en tout cas. Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois, notamment par mon expérience auprès des crocheurs, puisque dans un atelier relais, puisque si effectivement on part sur du projet ou des choses qui sont différentes de ce qu'ils connaissent, mais en essayant de mettre en place des conditions où ils peuvent être mieux eux-mêmes, ils vont finir par dire, mais finalement ici c'est pas une école.
Oui,
voilà. Et reprocher, après eux qui sont décrochés pourtant de la classe ordinaire, arriver parfois aussi, si on s'éloigne trop de la transmission de connaissances pour laquelle le professionnel est face à eux, lui reprocher ça. Voilà, c'est compliqué de réussir à mettre les deux ensemble.
Voilà, et surtout qu'on ne sait pas, là si on parle de décrocheurs ou de déjà décrochés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a des décrocheurs en puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas encore. Les décrochés, là, alors ça, je sais pas. Parce que les vrais décrochés, on les voit plus. Enfin, personnellement, moi, on a réussi à en voir quelques-uns, mais il faut aller dans des structures tout à fait particulières. Voilà. Mais j'ai quand même cette idée que ça va ensemble.
Moi, je voudrais peut-être aller compléter un petit peu par rapport à ce que tu dis sur cette conscience disciplinaire. On a accompagné une équipe sur Dijon, nous, avec des animateurs et des enseignants, autour d'un projet qui s'appelait Défi scientifique. Et l'idée, c'était d'essayer d'articuler un petit peu ce qui se passait au niveau scolaire en sciences et dans le périscolaire autour de ces projets, ces défis scientifiques. Et il nous a semblé qu'à un moment donné, il était important peut-être qu'on ait une discussion tous ensemble, donc les animateurs, les enseignants, et puis nous, autour de qu'est-ce que c'est que les sciences. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette question, on n'a pas vraiment réussi à la traiter. On y a passé une matinée complète et on n'a pas vraiment réussi à la traiter, c'est-à-dire que systématiquement, elle était détournée et transformée en soit qu'est-ce que ça me fait de faire des sciences, soit quel est mon vécu par rapport aux sciences. Et finalement, c'est quoi les sciences? Pourtant, on avait, notamment dans les enseignants, hein, on avait une CPD du département scientifique. Hein, donc, voilà. On a quand même réussi à arriver à la conclusion que finalement, peut-être, c'était une question éminemment philosophique, hein, cette question de qu'est-ce que c'est que les sciences. Mais au bout de 3 heures de discussion où on a contourné, zigzagué, etc. Donc, ce problème, enfin, cette question de la conscience disciplinaire est donc là, enfin, je dis on était dans le premier degré, mais je pense qu'elle se pose aussi dans le second degré. Elle est peut-être pas très claire non plus du point de vue des enseignants que nous sommes. Hein.
Bonjour, moi je suis ici à différents titres. Je suis une ancienne directrice de Mont-Saint-Barœul, en retraite, mère d'un décrocheur qui est même carrément en retraite depuis 6 mois, et aussi vice-présidente de la FCPE du Nord. Voilà, donc je suis en mission ici pour leur faire des comptes rendus. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Alors d'abord pour la question de est-ce qu'on doit d'abord instaurer la paix sociale, Monsieur Gier, que vous devez bien connaître, avait tendance à dire qu'avant, un enseignant, quand il arrivait, il faisait la classe. Maintenant, il faut d'abord qu'il fasse sa classe. Et moi, ça a toujours guidé mes pas en tant qu'enseignante à Mont-Saint-Barœul. Une première chose. La deuxième, moi, je m'interroge sur le fait que... j'aime bien le petit parcours de tiens, si on allait interroger les disciplines. Maintenant, moi, je me dis, on cherche des liens, la finalité, etc. Et comment ça se fait que, quand on est soi-même enseignant, ça pose moins de problèmes pour nos enfants ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on arrive à dire, à faire comprendre à nos enfants sur à quoi ça sert l'école et pourquoi c'est important le français, pourquoi faut s'accrocher au devoir le soir, etc. Qu'est-ce qu'on arrive à leur faire comprendre en tant que parents et qu'on n'arrive pas à transmettre à nos élèves, puisque ça, on devrait pouvoir le dire à tous nos élèves de nos classes. Voilà, donc il y a quand même, je trouve, quelque chose qu'on pourrait interroger là sur qu'est-ce qui est loupé et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que cet écueil-là n'ait pas lieu. Qu'est-ce qui fait que la plupart des élèves qu'on interroge se disent mauvais en maths en France, avec les mêmes résultats quelquefois que d'autres élèves à l'étranger qui, eux, ne vont pas s'estimer en échec.
Alors, je prends la parole par rapport à ça. Séverine Caipo, je crois qu'il va vraiment falloir qu'on la fasse venir rapidement, est en train de conduire une étude auprès de... Elle suit donc des familles dont la mère est enseignante pour essayer de comprendre ce qui se joue. Alors, elle les suit, ces familles, enfin, elle suit les enfants dans l'école et la famille dans sa vie familiale et dans ses activités familiales, pour essayer de comprendre justement ce qui se joue dans la réussite des enfants d'enseignants, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui est incorporé, hein. C'est ce qu'on dit toujours dans le métier, il y a un certain nombre de choses, c'est même pas de l'ordre de l'implicite, c'est de l'ordre de la pratique incorporée sur laquelle les ergonomes eux-mêmes se posent des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour mettre des mots dessus et est-ce que c'est possible, quoi. Voilà. Et donc elle conduit actuellement une étude là-dessus. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on... Séverine Kakpo, je l'ai écrit ici, K-A-K-P-O. Voilà.
Bon, j'essaye de répondre un tout petit peu, mais alors, parce que c'est une question, il faudrait la travailler. Bon, merci pour la référence à Jean-Robert J.R., hein, que nous saluons tous, oui, ça c'est vrai. Quand même, ce qui prouve aussi qu'un IEN peut faire des choses extraordinaires. Vraiment, parce que c'est grâce à lui que tout s'est mis en place et il a laissé un souvenir vraiment très, 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 très fort. Oui, oui. Alors, si on est effectivement, je dirais peut-être que quand on est, c'est un problème qui nous a beaucoup intéressés. Est-ce qu'il y a une différence entre être élève, être enfant, être apprenant ? D'accord ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des postures qui sont... C'est-à-dire, chacun d'entre nous peut être à un moment donné, plus un enfant, excusez-moi, mais un adulte, au sens classique du terme, on peut être un enseignant, on peut être aussi un apprenant. Pour un gamin, on va dire comme ça, effectivement, est-ce qu'il est, lorsqu'il rentre dans la classe, est-ce qu'il est tout de suite un élève, ou est-ce qu'il est de temps en temps encore un enfant ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il est tout de suite un apprenant ? Je n'en sais rien non plus. Je crois qu'on peut être un élève sans être pour autant un apprenant. D'accord ? C'est-à-dire se construire en tant que tel. Je pense par exemple à ses réponses sur le sport. Où vraiment c'est majoritaire. Hein. On n'apprend rien en sport. Alors qu'ils en font avec beaucoup de plaisir. Ils adorent le sport. Curieux, hein, c'est curieux, c'est cette absence de reconnaissance, d'identification, parce qu'ils apprennent des choses en sport. Faut pas exagérer. Voilà. Alors peut-être que, je n'en sais rien, mais peut-être qu'on pourrait se dire que dans l'espace de la classe, quand vous êtes enseignant, vous n'êtes pas dans la même relation que lorsque vous êtes mère ou père avec un enfant. Vous avez quand même, des expériences vécues avec vos élèves qui ne sont pas les expériences vécues que vous avez eues avec vos enfants. Vous décryptez des choses de vos enfants que vous ne décryptez pas, heureusement, de vos élèves. Puisque vous avez quand même, des connivences que vous n'avez pas avec vos élèves. Il me semble, hein, c'est-à-dire que ce seraient des espaces un peu différents. J'ai des enfants, moi-même, qui ne sont absolument pas bons en maths. C'est un grand désespoir pour moi, de temps en temps, oui. Et qui ont toujours enfin, j'en ai une en particulier qui a toujours refusé que je l'aide. Pour des raisons, je pense, de relations mère-fille et pas des relations d'enseignant. Elle m'envoyait ses copains. Voilà, c'est drôle, hein. C'est-à-dire que vraiment, je pense là qu'il s'agit effectivement d'espace social, hein, au sens d'espace où la communication est possible, d'accord, où elle contraint, où elle autorise certaines formes de communication et peut-être pas d'autres. Ah oui, et là c'est en tant qu'enseignante, enseignante en collège que je vous réponds. Moi, les petits voyages en Angleterre qu'on pouvait organiser à l'époque étaient merveilleux parce que on découvrait les élèves et après c'était, on avait d'autres souvenirs aussi. Mais ça c'est en didactique. Alors il y a le concept de mémoire didactique qui est pas inintéressant. Justement, qui explique comment, entre des élèves et des enseignants, se crée petit à petit un partage d'expériences communes ou d'expériences, je veux dire, très désagréables, hein, mais qui constituent une mémoire didactique, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas de la même façon face à des gens que l'on connaît même très peu et que des gens qu'on découvre. Voilà, je vous laisse ça.
C'est vrai que la diversité des disciplines, des matières, nous renvoie à l'existence d'un monde complexe, difficile à aborder de manière structurelle, analytique, transversale. Il me semble qu'au niveau de l'enseignement, il faudrait peut-être davantage travailler sur la transversalité des savoirs, des disciplines, même au sein de sa propre discipline. Et puis, je pose la question suivante, alors, telle quelle. Comment aborder la complexité de notre monde de manière structurante, intelligible, pour l'entendement humain, de manière à éveiller la conscience disciplinaire de nos élèves, à ne pas les enfermer dans des contenus formatés, restrictifs, simplificateurs, quelque part. C'est-à-dire, autrement dit, essayer de comprendre un petit peu, avoir une approche globale, une vue d'ensemble, avant de se centrer sur des détails, sur des situations... plus spécifique, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, essayer de comprendre notre univers, notre existence d'humain, avant d'aborder la physique, la chimie, etc. Enfin, différentes choses.
Ah ben déjà, je vous poserai la question, est-ce que vous croyez que... surtout en tant que matheuse, si vous voulez, où j'aurais envie de vous dire, mais j'ai pas envie de comprendre le monde... J'ai envie de comprendre mon propre discours. Bon. Je ne suis pas aussi sûre que ça, que ce soit possible. Je ne sais pas du tout. Votre question me laisse vraiment sans réponse. Est-ce qu'il faut... C'est-à-dire, c'est bien, est-ce qu'il faut ? Est-ce que c'est mieux ?
Est-ce que ce ne serait pas plus préférable et plus efficace pour former... des jeunes plus épanouis, plus éclairés, voilà, dans ce sens-là, plutôt que des jeunes plus formatés, plus dociles socialement, utiles économiquement, enfin bon, toute la ramification, mais bon,
c'est au-delà. Bref, l'anarchie est tout là.
Mais la tâche est complexe.
Non, je réfléchis et je renvoie à cette école, si vous voulez, où le prince, voilà. Je renvoie à l'intervention, à la recherche qu'on a faite sur l'école Freinet, où le but, la visée, effectivement, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, c'est ce que les enseignants affichent. Hein. Ils disent, nous voulons que former des élèves à devenir des élèves autonomes, et nous voulons également former, c'est-à-dire engranger une culture populaire commune. C'est-à-dire les termes sont politiquement pesés, d'accord, pas toujours. Mais très curieusement, je crois qu'il est... si nous sommes quand même dans une institution, disons l'éducation nationale, nous sommes dans une institution qui est le collège, l'école primaire dans laquelle on enseigne, dans la classe, et j'ai envie de répondre ce que j'ai répondu au CESE. Il est effectivement des principes
sur lesquels vous pouvez réfléchir. Par exemple, vous pouvez avoir comme principe la démocratisation. D'accord ? Que votre classe soit un espace de démocratie. D'accord. Vous pouvez avoir comme principe le fait que vos élèves doivent être autonomes, etc., etc. J'en décline plusieurs. Mais au fond, après, ce qu'il vous appartient de réfléchir, ce sont les dispositifs pour parvenir à mettre en œuvre ces principes. Et je crois que c'est là le plus compliqué. C'est-à-dire que si vous adoptez comme principe le fait que vous avez envie que les élèves que vous avez sous les yeux comprennent le monde, s'en saisissent, soient intelligibles, ce qui est le plus compliqué, c'est de se dire comment je vais faire. Comment je vais faire, effectivement, pour qu'ils accèdent à un questionnement. Parce que si en fond, c'est peut-être un petit peu ça, un principe de partir de leur questionnement. Et ceci ne passe, je crois, que par des dispositifs, je dirais, qui sont très pragmatiques. Construire une question d'un élève, c'est-à-dire qu'elle puisse émerger, ça ne se fait pas en disant « aujourd'hui, vous avez la liberté de questionner ». Là, c'est quelque chose, vous savez très bien, que ça va au contraire figer. Paradoxalement, plus on dit « vous avez des libertés », plus ça les restreint. Faites un texte libre. Allez, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Rien. C'est bien pour ça qu'on dit au contraire, voilà, on va se donner des contraintes. On va faire des poèmes qui commencent par des lettres. Vous voyez, enfin des choses comme ça. On va essayer d'avoir une recherche mathématique sur tel ou tel truc. Bon. Donc c'est pour ça que je dirais, réfléchissez peut-être à ce principe qui est effectivement de partir de questionnement des élèves sur le monde. Et réfléchissez peut-être, réfléchissons ensemble, hein, parce qu'il y a des solutions, il y a peut-être des dispositifs à inventer pour les élèves que vous avez devant les yeux, de façon très, très spécifique. Je suis assez pour l'humilité pédagogique, au fond. Le terre à terre, quel texte je vais donner, quelles contraintes je vais donner. Voilà, je sais pas, hein, c'est...
Pour rebondir sur la question de la personne derrière moi... J'ai le sentiment que l'école a finalement mis en place une instrumentalisation des disciplines. À quoi ça sert ? À quoi ça doit servir ? Que les enseignants ont eux-mêmes intégré une technicité devant servir leur discipline. Et à l'école primaire, les élèves sont captifs. Ils ont une relation très affective avec l'enseignante, la maîtresse. Au collège, dans des journées atomisées, c'est-à-dire qu'on va en histoire, on va en français, on va en mathématiques, cette relation à l'enseignant peut être radicalement différente et du coup la relation à la discipline prend d'autant plus d'importance. Et pour en avoir des décrocheurs, ce sont ceux qui à un moment donné disent on ne supporte plus d'aller en histoire, on ne supporte plus d'aller en français. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est les élèves démotivés. Au collège, nous avons des élèves silencieux, démotivés, qui n'ont pas envie, mais qui vont quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils instrumentalisent eux-mêmes leur journée et leur discipline en disant « je vais en histoire, je vais travailler, à quoi ça sert ?» et ils vous répondent pour avoir une bonne note. Mmh. Et je reviendrai sur l'interrogation de la personne derrière moi. C'est vrai qu'on a perdu l'enjeu des apprentissages. Et quand vous dites mettre en place des dispositifs qui permettent de mettre en place une interrogation pour les élèves, oui, certes, mais il faudrait interroger les programmes, il faudrait interroger la formation et il faudrait interroger notre organisationnel au-delà d'interroger les apprentissages de nos élèves. Voilà, merci.
Interroger les apprentissages des élèves, c'est interroger la formation des enseignants. C'est quelque chose que l'on sait et que la formation continue. Ça, nous le regrettons, je pense, tous, effectivement. Alors, une toute petite remarque, parce que c'est vrai que primaire, collège. On nous fait souvent le reproche, hein, également, et c'est une grosse question en didactique, en particulier des mathématiques. Est-ce qu'on a le droit de parler de didactique des mathématiques au primaire, puisque, et en maternelle, puisque la vraie disciplinarisation ne commencerait qu'au collège avec un enseignant formé pour. Je tiens quand même un petit peu à souligner que même au primaire et en maternelle, il n'y a pas qu'une seule personne dans la classe. C'est-à-dire que les élèves ne sont pas confrontés continuellement à une maîtresse. On oublie un peu qu'il y a des assistantes de vie scolaire. Il y a la personne qui fait la bibliothèque et qui vient lire des histoires. Il y a l'intervenante qui est aussi en langue. Pas chez vous ? Ah, en milieu rural, oui, c'est vrai. Excusez-moi, je suis vraiment en milieu urbain. Oui, oui, tout à fait. Désolée. Oui, oui. Tandis que chez nous, oui, c'est vrai qu'il y a souvent plusieurs personnes qui se partagent un petit peu le temps. C'est-à-dire que ça peut être aussi une façon pour l'élève, même en primaire, en CM2, puisqu'on a interrogé des élèves de milieu urbain, de reconnaître aussi l'anglais, ça se reconnaît assez facilement, et la bibliothèque aussi. Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a une histoire de temps. Et je crois qu'on en a parlé hier ici, c'est-à-dire les 50 minutes qui sont dévolues à chacune des disciplines scolaires, et effectivement, on se rend compte que le parcours d'un gamin qui rentre à 8 heures en français, puis ensuite qui va en physique, puis ensuite qui va en etc., passe d'univers, on va dire, d'univers disciplinaire extrêmement varié et doit s'adapter. D'accord ? Et souvent, l'enseignant, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas du tout jeter la pierre aux enseignants. L'enseignant, lui, il a en tête la continuité du cours. C'est-à-dire qu'il y a la classe qui arrive et qui dit « Bon, la dernière fois, on en était resté là. » Et il ne pense pas toujours que l'élève vient de sortir de sport, etc. Il vient de se disputer... Enfin, bon. L'enseignant a une continuité du temps, une représentation du temps didactique, pour le dire comme ça, qui n'est pas du tout celle des élèves. Voilà, bon, ça, c'est une chose. Ensuite... Moi, ce que je dis simplement, hein, c'est que vous avez dit effectivement des discours du genre « on ne supporte plus l'histoire, on ne supporte plus les maths ». Ce que je vous dis ici, c'est qu'à mon avis, les raisons ne sont pas les mêmes. Pour ne plus supporter l'histoire et pour ne plus supporter les maths. C'est-à-dire qu'on réfléchisse à ça, qu'on se donne le temps de réfléchir. J'ai rencontré beaucoup d'élèves en collège, j'étais très surprise de ça, qui disent « je ne supporte plus l'histoire ». Et pour moi, prof de maths, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Comment est-ce qu'on peut ne pas aimer une discipline comme l'histoire ? Franchement, ou alors c'est ma représentation, ma conscience disciplinaire de l'histoire qui apparaît. Hein. Et il me disait, bah, oui, c'est sur le passé. Mais moi, j'en ai rien à faire du passé. Et alors là, honnêtement, je me dis, mais comment font les profs d'histoire ? Parce qu'à une réponse comme celle-là, moi, j'ai pas de réponse didactique. C'est pour ça que je regrette que la collègue qui est spécialiste d'histoire géo ne soit pas là, parce que les réponses me semblent pas être les mêmes. Que quand en maths, on dit « Oh les maths, moi je déteste ça parce que, écoutez, leur formule avec des X et des Y, je n'ai jamais rien compris. » Il me semble que ce sont deux argumentaires complètement différents et les réponses ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas les réponses. Je voudrais simplement qu'on réfléchisse à ça. C'est ça. Je ne sais pas si je vous ai éclairé. Mais merci aussi d'avoir parlé des élèves silencieux. Merci beaucoup. Nous sommes en train... Mais ça, c'est une autre recherche. Avec une collègue qui est plutôt, de vision psychanalytique. Elle travaille sur les élèves silencieux. Et moi, je travaille sur les silences des élèves. Et on aura beaucoup de choses à dire là-dessus, je crois aussi. Ça, c'est... Mais ils ne sont pas tous décrocheurs, hein. Voilà, je suis désolée.
Je peux peut-être, en même temps, ça va être un petit peu décalé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à l'intervention que je voulais faire tout à l'heure, mais je pense qu'on est dans ce cadre-là. Vous nous avez parlé beaucoup du vécu disciplinaire des élèves, et essentiellement, leur vécu, effectivement, dans la journée, c'est ça. J'ai oublié de me présenter, je suis principale de collège. Oui, et on nous a beaucoup incité ces dernières années dans le travail d'équipe, à faire travailler ensemble justement des équipes pluridisciplinaires, de façon à travailler le lien entre les disciplines,
oui.
Ce qui est un autre aspect et qui peut expliquer aussi le brouillage que vous avez évoqué tout
oui,
à l'heure
dans
votre présentation pour les élèves, parce que les élèves ne savent plus du coup quelquefois à quoi appartient l'activité qu'ils ont. Ils le savent encore moins, bon, je pense à l'expérimentation que nous avons mis en place dans notre collège, où il y a une partie modeste de la semaine, mais 2 heures par semaine systématiquement, où les élèves sont en atelier volontairement voulu, très 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 pluridisciplinaire, où de la techno peut travailler avec du français ou d'autres disciplines, de façon que les élèves, par rapport au disciplinaire qui pour eux ne fait pas sens, et je rejoins la question, la complexité du monde, c'est pas à un moment donné on fait du français, à un autre moment on fait des maths et à un autre moment on fait de la techno, on fait un peu de tout à tout moment, c'est ça le vécu quelque part. Et l'idée, il me semble, c'est que pour que l'apprentissage disciplinaire fasse sens pour les élèves, c'est qu'à un moment donné, ils soient confrontés à d'autres logiques d'une autre discipline, pour tout à coup que l'élève voit comment et prenne conscience de comment ça fonctionne, parce que comment ça fonctionne le monde, ça c'est très compliqué, mais beaucoup plus modestement, comment à travers une activité toute simple, on fait une construction, on a besoin de quoi ? On a besoin de français parce que pour les consignes, on a besoin de maths parce qu'il faut calculer les angles ou de géométrie, on a besoin, si on s'adresse à des étrangers, de leur expliquer ça en anglais parce qu'on a des correspondants, etc. Donc, mon interrogation, c'est quelle part dans l'école idéale, hein, quelle part faudrait-il donner aux disciplinaires et à l'interdisciplinaire au moment pour faire un lien entre ces différentes disciplines. Alors, c'est compliqué à organiser, mais c'est pas impossible.
D'accord. Comment dire ? Pluridisciplinaire, interdisciplinaire, hein, tout ça c'est un peu complexe. Je parlerai de lien entre les disciplines, je parlerai de structure de leurs liens. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vais renvoyer pour aller assez, un peu plus rapidement peut-être, je ne sais pas. Oui, excusez-moi. De Martinan. Martinan dit qu'une discipline peut être, à un moment donné d'une formation, une discipline de cœur. Alors, c'est pas celle qu'on aime, c'est celle qui est au cœur de la formation. Et que, et qu'il y a à un moment donné une autre discipline qui peut être une discipline de service. Et une autre discipline encore d'ouverture. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de faire du français, on va dire, hein, mais ça peut être le fait que le français est au cœur de votre formation. Vous êtes en cours de français, vous apprenez du français. Ou bien tout à coup, elle peut jouer le rôle de discipline de service. D'accord ? C'est-à-dire vous allez chercher, vous allez vous servir, vous appuyer sur les choses que vous savez en français. Ou bien elle peut être aussi une discipline d'ouverture. D'accord ? Je pense par exemple à ce que vous dites sur les ateliers, sur la techno, qui peut être tout à fait conçue comme une discipline d'ouverture, par exemple, à un moment donné. D'accord ? Et que les autres disciplines aient une autre fonction différente. C'est-à-dire que la l'interdisciplinarité me semble être quelque chose d'intéressant tant qu'on réfléchit à ce qui est structurant et ce qui est structuré par. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et ça contribue dans ce cas-là, effectivement, à l'élève, à la clarté qu'il peut avoir.
Moi, je veux juste intervenir sur la pluridisciplinarité. Donc, je suis enseignante en lycée pro. Et pendant longtemps, on a eu les fameux PPCP, projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, qui nous ont été supprimés à la réforme du bac pro 3 ans. Donc, du coup, on n'en fait plus du tout. Alors que c'est vrai que c'était là où on pouvait intéresser les élèves sur un projet. Et en même temps, on faisait du français, des maths, de l'anglais. On arrivait à tout insérer à l'intérieur, tout en ayant une compétence visée au départ,
oui,
mais pluridisciplinaire. Et à notre regret, ça nous a été supprimé.
Mais c'est ça, oui, voilà. Mais attention, là, il y avait aussi le projet et l'inscription dans le temps. C'est-à-dire que si je me souviens bien, vous aviez du temps pour réaliser. Il y a aussi cette dimension-là d'inscrire les apprentissages dans un temps long, qui est, à mon avis, incontournable et qui est la marque d'un succès généralement. Oui, enfin, au lieu de toc 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 toc. Voilà. Bon. Mais ça, c'est un bon. Voilà. Je ne peux pas vous dire, c'est le regretter, c'est tout.
Bonjour. Donc, Je me présente, je suis enseignante en français, histoire, géographie en lycée professionnel. Donc j'interviens surtout par rapport à l'histoire là. Donc par rapport à tout à l'heure, vous aviez dit que certaines personnes au niveau de la didactique, on avait du mal à répondre sur le fait qu'on s'intéresse pas au, à ce qui s'était passé avant. Moi, je me souviens d'un de mes enseignants qui m'avait dit qui avait fait le parallèle entre une personne qui perdait son identité et une communauté qui perdait son identité par rapport à une amnésie. Donc, c'est-à-dire que deviendrait un peuple s'il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé. Et en tant que valeur citoyenne, en tant qu'enseignement par rapport aux citoyens de demain, je trouve ça important. Par contre, ma question pose plus, moi, ce qui me gêne par rapport à l'histoire, c'est au relais la didactique entre la primaire, entre le collège, entre le lycée professionnel. Au niveau des compétences, je trouve qu'il y a un manque de lien, il y a un manque aussi d'évolution. Moi, je vois tout à l'heure, vous avez dit que pour vous, ou pour certaines personnes, l'histoire, c'est l'apprentissage et les mathématiques, c'est la compréhension.
Oui.
Moi, pour moi, avec mes élèves, l'histoire, c'est la compréhension.
Ah oui.
Donc, c'est-à-dire que certains collègues vont leur demander d'apprendre 15, 20, 30 dates ou des notions par cœur, alors que moi, je leur demande de les comprendre. Et j'arrive sur une logique un petit peu différente, puisque des fois, j'ai des élèves qui sont dégoûtés de l'histoire.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Oui, et je trouve qu'il faudrait vraiment travailler cette liaison. Et comment pourrait-on faire à l'heure actuelle, collège, lycée, parce que certes, il y a le livret des compétences qui existent, mais sachant qu'il doit être validé automatiquement pour le passage au brevet et ainsi de suite, je nous trouve un peu démunis.
Tout à fait. Et là, c'est la formation. La formation continue qui n'existe plus beaucoup, on va dire. Et puis la formation d'équipe aussi de monde de travail peut-être en commun dans des collèges. Mais ça, c'est, ça dépasse de loin ma compétence. C'est vraiment des choses à...
Si je pourrais ajouter juste quelque chose par rapport à ça, sur cette question de la liaison, bah, il a été mis en place des conseils école-collège, mais qui bah, renvoie à des fonctionnements qui existent depuis longtemps, notamment dans les EP. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on y met dans ces conseils d'école-collège ? Est-ce qu'on y met simplement voilà, les espèces de fiches de signalement des élèves qu'il faut bien mettre dans la bonne classe pour les séparer ? Ou est-ce qu'on y met la réflexion sur... qu'est-ce que moi, professeur de collège, j'attends dans ma discipline ? Moi, je me rappelle d'une expérience où on avait demandé à un prof de collège, pour les professeurs des écoles, de faire une page sur ce qu'il attendait que les élèves sachent en sixième de ce que c'était qu'une phrase. Et là, quand on commence à travailler dans les conseils école-collège sur ces objets-là, en plus, je pense que ça gagne en intérêt, y compris pour les enseignants.
Oui, c'était juste pour compléter ce que disait Stéphane et en rapport avec l'atelier sur lequel on a fini la journée hier et sur la question justement de qu'est-ce qu'on met. Parce que finalement, hier, on n'est pas revenu sur ces ateliers, mais hier dans le groupe avec lequel je partageais ce temps-là, on se rend compte que c'est aussi au-delà de qu'est-ce que fait l'institution, c'est qu'est-ce qu'on met, nous, dans les moyens mis en place par l'institution et qui existent. Le conseil école-collège, ça peut être vraiment un vrai facteur de lien selon ce que l'on en fait. Et il existe par rapport au parcours des élèves pour éviter des ruptures et des discontinuités, des éléments d'ores et déjà mis en place en l'institution. Reste à ce que les acteurs de l'institution les connaissent. Et là, on a constaté entre nous, pourtant on était 7 ou 8, que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Donc il y a un vrai problème de la diffusion de l'information de l'institution vers ses agents. Et ensuite, comment chaque agent prend sa responsabilité d'artisan pour mettre en œuvre les moyens mis à disposition par son institution.
Ça rejoint ce que disait Stéphanie hier. Hein. Comment est-ce qu'on travaille sur l'existant plutôt que de prescrire l'idéal, hein.